C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Et salut à tous, Monsieur McKenna, bonjour.
Bonjour Benoît.
Autre semaine, autre émission, on est pas mal sur la route de ce temps-là, vous allez voir, là, je vais vous amener pratiquement à chaque semaine des essais qu'on a fait ailleurs. Mm-hmm. Cette semaine, en fait, c'est la première de deux parties d'un essai parce que... non, c'est pas voulu, je veux pas vous faire languir, c'est parce que je suis allé au lancement de la Porsche Taycan, la 2025.
Je l'aime ta formule, là.
Et... on nous a donné deux embargos.
Ah.
Donc, il y en a un qui était le 3 avril. Donc, je suis correct. Je peux vous en parler. Mais l'autre, c'est le 10 avril. Et comme on n'est pas encore le 10, je peux pas encore vous en parler. En fait, c'est la Taycan qui vient en version 4S Turbo, Turbo S et Turbo GT. On va parler des trois premières versions aujourd'hui. Mm-hmm. Puis la Turbo GT qu'on a essayé sur le circuit Monte Blanco en Espagne.
Donc, on n'abandonne pas l'appellation Turbo, là?
Non, on n'abandonne pas encore.
OK.
Ce qui fait un peu... Oui, encore. Parce qu'on en parle. On en a parlé aux gens. Ça, on pourra en glisser un mot.
Ben oui.
Donc, ça va être la semaine prochaine qu'on va pouvoir en parler. Fait que je vais parler des quatre premières versions, pas de la dernière. On a un embargo. Je peux vous parler du prix, tout ça, mais je peux pas vous donner d'impression de conduite.
Ah.
C'est sur ce point-là en particulier qu'il y a un embargo. Alors, mais on va en parler tantôt dans la section essais. Tu nous présentes quoi, toi, cette semaine, Alain?
Ben, moi, je suis très terre-à-terre parce que j'ai essayé chez moi comme... très banalement, une Nissan Altima SR qui m'a surprise. En fait, c'est l'autre de ces berlines qu'on se dit...
Ça fait du bien de revenir dans des voitures plus simples de temps en temps.
Oui, prix raisonnable, 4 roues motrices.
Oui.
Coche plusieurs des éléments qu'on regarde quand les gens finissent par vous dire je vais acheter un VUS parce que si, il y en a quelques-uns qui sont là dans l'Altima, comme d'autres véhicules d'ailleurs, que d'autres berlines, j'aurais dit. Bref, on en parlera tout à l'heure, mais c'était une... pour moi, c'est un renouement agréable avec Nissan. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas chauffé du Nissan.
Parfait.
C'était le fun.
En invité, évidemment, c'est le mois d'avril. Ceux qui ont remisé leur véhicule d'hiver parce qu'on les roule seulement quand il fait beau. Mm-hmm. Ça approche à grands pas.
Mm-hmm.
Donc, on va pouvoir bientôt les sortir. On va parler avec un spécialiste de voitures classiques, André Fitzbach. Retenez bien son nom. On va l'avoir assez souvent à l'émission dans la prochaine année. Il va venir nous parler de voitures classiques. C'est un spécialiste, il a un atelier, il fait ça, il gagne sa vie avec ça. Et surtout, chose très importante, lui, il remet des voitures à l'origine. Par lui, il va de rétro-mode ou de choses comme ça. Lui, une voiture qui a été construite d'une telle manière en 1960,
ouais.
Ben, lui va la refaire
telle qu'elle.
À l'origine.
Wow.
Donc ça, c'est un point important. Il va être avec nous pour parler évidemment de la préparation du véhicule au retour sur la route pour la belle saison qui s'en vient.
Mm-hmm.
Et évidemment, ben, on commence comme à chaque semaine avec nos nouvelles.
N'est-ce
alors,
pas?
Je vous donne le crachoir, M. McKenna.
J'avais définitivement de la suite dans les idées, parce que je reviens pour vous parler de Nissan, je ne sais pas à quel point c'est une bonne nouvelle, mais ça va satisfaire les gens qui trouvent les écrans omniprésents. C'est que Nissan veut mettre fin aux écrans à bord de ses voitures.
Fin complètement, plus d'écran.
On joue sur les mots naturellement,
ouais.
C'est dans l'air du temps, les écrans, là, on le sait, c'est un peu le mal de la décennie. Là. Il y a trop de monde qui a toujours leur visage et qui est crabouillé dans leur tablette, leur téléphone. On sait qu'il y a beaucoup d'écrans à bord des véhicules, des écrans tactiles aussi, souvent qui ont peut-être pas la meilleure ergonomie là, pour une question de sécurité de conduite, et ainsi de suite. Et il y a peut-être une solution là, pour les automobilistes qui pestent justement contre cette omniprésence des écrans et des surfaces tactiles du côté de Nissan, qui pense qu'on pourrait bientôt s'en débarrasser au profit d'un affichage directement dans le pare-brise. C'est ce qu'a affirmé là, la semaine dernière, c'était le Salon de l'Auto de New York, et il y avait beaucoup de gens là-bas de l'industrie. Il y avait le directeur du design de Nissan, Alfonso Albaiza, qui a essentiellement dit ça. Selon lui, le futur de l'affichage à bord des véhicules se trouve dans le pare-brise. C'est pas le seul qui pense ça. Hein. Il y a beaucoup d'équipementiers un peu partout dans le monde, là, pas seulement des Japonais, mais aussi des Allemands puis des Nord-Américains qui poussent ces jours-ci, ou depuis quelques années, je devrais dire, pour la prochaine génération des fameux dispositifs d'affichage tête haute. On en trouve déjà affichage tête haute dans les véhicules, mais sont très petits, sont confinés au conducteur, parce que c'est un petit projecteur qui a une vitrine très limitée derrière le volant. il y a évidemment beaucoup de fabricants et d'équipementiers qui disent que ben, ça va s'éclater éventuellement. Du côté de Nissan, on a une vision toute particulière de la façon dont l'information sera éventuellement affichée sur le pare-brise. M. Albaissa pense qu'on va voir bientôt des écrans à Dell comme des téléviseurs, là, mais transparents et ultra minces, qui vont être laminés à même le verre des pare-brises. Donc, on va avoir un pare-brise et un écran derrière le pare-brise.
Oui. Donc, il n'y a plus d'écran, il y a des équivalents, mais qui vont être moins distrayants. Là.
Exactement. Ça reste une surface d'affichage, disons ça comme ça. C'est des écrans qui vont pouvoir afficher de l'information en tout genre, évidemment, partout sur leur surface. Donc, de bord en bord du pare-brise, on va pouvoir voir même des éléments de réalité augmentée, là, qui est un buzzword du moment dans les technos. Par exemple, des éléments de guidage superposés à la route. Donc, par exemple, la flèche qui est tournée à droite pourrait te dire aussi sur quelle voie de l'autoroute se te trouver avant de tourner à droite. Il y a aussi d'autres informations, évidemment, qui vont pouvoir être affichées comme la climatisation, l'état de la radio, qui va vous féliciter si vous écoutez le 98.5 ou une autre belle station du groupe Cogeco. Des écrans à Dell transparents, c'est pas exactement, ben non, c'est pas du tout de la science-fiction. En janvier dernier au CES à Las Vegas, oui, LG et Samsung ont dévoilé des grands téléviseurs transparents particulièrement lumineux. C'était une technologie OLED. LG prévoit d'ailleurs mettre son téléviseur en vente d'ici la fin de l'année. On parle d'un prix de détail de quelques centaines de milliers de dollars. Donc, on n'est pas encore rendu à une commercialisation très grand public. Mais du côté de Samsung, on a dit qu'on voyait des applications justement au-delà du salon, là, et notamment de l'automobile. Samsung, je dis ça comme ça en passant, c'est une entreprise qui est propriétaire de la marque de système de divertissement Harman Kardon, qui est très présente dans l'automobile, on le sait. Donc, on peut imaginer que l'écran transparent de Samsung pourrait être adapté pour avoir à peu près la taille d'un pare-brise et que ce n'est pas si farfelu qu'on imagine que ça pourrait être mis en marché bientôt aussi. Chez Nissan, on pense que Apple et Google aussi pourraient être des partenaires pour réaliser une technologie comme celle-là. Apple a déjà des brevets d'affichage sur pare-brise dans ses cartons, là, un peu dans ce genre d'application-là. Alors, je veux dire ceci, c'est peut-être la fin des écrans tactiles. C'est sûr que c'est pas la fin de l'affichage à bord des véhicules, on se comprend. Mais ce serait une belle façon d'enlever des morceaux de distraction dans les véhicules, puisqu'on continuerait de regarder devant le véhicule alors qu'on interagirait avec cette technologie-là.
Bon, intéressant. C'est ça. Autre nouvelle, Subaru cette fois-ci.
Ben, on va parler un peu de Subaru qui pourrait avoir vu juste dans sa stratégie d'électrification. Et là, il y a des gens les gens qui suivent ça vont peut-être se sentir interloqués en disant « Ah, ils ont une stratégie d'électrification. »
Ils ont vu quelque chose.
Ben, évidemment, on critique souvent les constructeurs japonais. On l'a fait ici à l'émission. En tout cas, moi, je l'ai fait une couple de fois. D'avoir tardé à suivre le mouvement d'électrification de leurs véhicules. On a aussi critiqué un peu sévèrement et plus spécifiquement, les marques Subaru et Mazda pourraient demeurer sur les lignes de côté, disons-le comme ça, pour avoir adopté une stratégie qui consiste essentiellement à laisser la parade passer et peut-être embarquer éventuellement. En ce moment, Subaru n'a seulement que la Solterra, que le Solterra, je devrais dire, dans son catalogue de véhicules électriques. Il y a aussi un Forester fortement hybride qui s'en vient, donc plus que juste légèrement électrifié. Là, il faut jouer sur les mots, mais en gros, il pourrait plus reposer sur l'électrique que sur le moteur thermique, disons ça comme ça. Et la cible de Subaru demeure de vendre la moitié de ses véhicules en 2030 sous forme de véhicules électriques. Donc, il y a quand même une cible, là. Et quand on dit électrique chez Subaru, on veut dire fortement électrifié, donc probablement beaucoup hybride aussi. Pour y arriver, Subaru mise fort sur la technologie d'autres constructeurs, nommément celle de Toyota, parce que le Solterra, on le sait, c'est le BZ4X avec une autre robe.
Oui, exact.
En fait, ce qui arrive, c'est que les analystes qui suivent ça de façon plus spécialisée là, pensent qu'en ce moment, pour un constructeur somme toute assez modeste comme Subaru, la stratégie d'attendre que les choses se mettent en place plutôt que d'essayer de pousser pour faire provoquer le changement, c'est probablement la meilleure stratégie, en fait. Ce que plusieurs observateurs constatent, c'est qu'il y a une certaine fatigue des consommateurs face aux véhicules électriques qui coûtent plus cher qu'on le souhaite, parce qu'effectivement, les véhicules coûtent cher ces jours-ci. C'est pas un signe extrêmement positif pour les constructeurs qui ont déjà commencé leur virage ou qui le sont entièrement déjà là, électriques. Tesla, on regarde en bourse, entre autres, qui est souvent l'indicateur du sentiment plus que d'autres choses. Là.
Mais c'est un peu les montagnes russes, hein, Tesla en bourse.
Ben oui, puis c'est l'indicateur du marché parce que, bon, des jours ça va bien, des jours ça va moins bien. Là, on a appris l'autre jour avec la fin anticipée de l'aide à l'achat au Québec que ça allait peut-être donner un coup, puis ça crée un sentiment. Ça veut pas dire qu'en termes absolus, ils vendent moins de véhicules électriques.
Autrement dit, t'es en train de me dire que ceux qui ont pris le temps ont peut-être eu raison.
Ben, en tout cas, peut-être.
Parce que Toyota, Subaru, ouais. Mazda...
Mais il y a une nuance avec Subaru, c'est qu'en investissant moins dans sa propre technologie, puisqu'elle n'a pas à le faire, et en attendant que le virage électrique soit plus prononcé, Subaru réduit ses dépenses et pourrait être en mesure de vendre des véhicules électriques ou hybrides qui vont coûter moins cher.
Okay.
Parce qu'il y a moins de dépenses à amortir, disons ça comme ça. Et ça tombe bien pour Subaru, en tout cas, parce que... en tout cas, les dirigeants disent que c'est exactement ça, leur stratégie, offrir des véhicules électriques qui vont être plus abordables, éventuellement.
Ouais, c'est facile de dire que c'était ta stratégie une fois que ça a l'air winner.
Ah, je vous l'avais dit, ben tu l'as jamais dit avant.
Ben, je vous le dis là.
ben, on pourra lui reparler, parce que c'est le président et directeur de l'exploitation de Subaru of America, Jeff Walters, qui a dit ça, encore une fois, au Salon de l'Union la semaine dernière.
OK.
Il dit la situation de Subaru est particulière parce que, selon lui, les clients de Subaru sont très attachés à la marque, probablement plus que les acheteurs d'autres marques. Je veux dire, Benoît est en train de jouer du violon. Et Benoît n'a peut-être pas tort. Mais ça explique que la marque... en tout cas, c'est l'argument qu'il avance ces jours-ci pour dire que c'est pour ça que la marque prend son temps. Il y a d'autres éléments, évidemment.
Oui, 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 absolument.
Mais ça vient justement avec une condition importante. Subaru n'aura pas droit à l'erreur parce que... et déjà, M. Walters l'admet, ses véhicules consomment en ce moment trop d'essence au goût de plusieurs acheteurs. Et si rien n'est fait rapidement pour corriger ce défaut-là, ben, plusieurs vont aller magasiner ailleurs.
Absolument, absolument. Non, c'est toujours fragile.
Ben oui.
On est dans la saveur du moment. Mm-hmm. Et si on ne devine pas la bonne saveur rapidement, on risque de tomber aux oubliettes assez vite.
Exact.
Mais ça, si, c'est toujours le danger.
Si Subaru arrive à son espèce de cible de 50% de véhicules électriques en 2030, ce qui est à peu près la cible des gouvernements, par ailleurs, donc ce serait bien, ce serait une bonne nouvelle. Ça veut dire que la stratégie n'aurait pas été mauvaise. Sinon, ben, on imagine que bien des gens vont acheter des Toyota parce que... La différence entre un BZ4X et un Solterra, c'est la couleur.
C'est la forme couleur, des roues, je pense. Oui, oui. Ouais, ouais, puis c'est vraiment... Ouais, c'est
une stratégie risquée. Tout le monde dit ça comme ça.
Mais, évidemment, qui pour le moment est à l'avantage de Subaru.
Ouais.
De mon côté, tiens, tu parlais de Nissan. J'ai dit, pourquoi pas? Je suis capable de parler de Nissan, moi aussi. là, on a annoncé, je ne sais pas si tu as vu ça, c'était la semaine dernière, un nouveau plan d'entreprise. Parce que là, sait que Nissan a vacillé dans les limbes pendant plusieurs années depuis le coup d'État Carlos Ghosn.
Ça, c'était, oui.
Ça a jeté la compagnie par terre. Puis,
de mémoire, c'était même avant la pandémie. Là,
c'était avant. 2018,
ouais,
2018, ça fait 6 ans déjà.
Il
a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis, mais là, on a finalement ramené un plan qui s'appelle The Ark, l'Arche, appelons-la comme ça, pour une traduction française rapide, qui veut amener 30 nouveaux modèles d'ici la fin de l'année fiscale 2026. Qui va être en 2027, en mars.
Okay.
Donc, mettons dans 4 ans, là, 3 ans, pour être à peu près juste. Bon, évidemment, ces 30 modèles-là ne seront pas tous disponibles en Amérique du Nord.
Mm-hmm.
On parle d'à peu près 7 à 8 modèles chez nous. Donc, pour l'Amérique du Nord. Et un de ces modèles-là, ça serait selon Automotive News, là, qui a sorti la nouvelle cette semaine, un pick-up. D'une tonne. Donc, une tonne, là...
c'est gros, ça.
Ben, le Frontier, c'est un demi-tonne.
Ouais.
Une tonne, c'est un F-150, là, pour vous donner une idée. Comparable à un F-150 Lightning, comparable au RAM
électrique. Donc, on fera électrique. Bien avec quelque chose de...
Bon, ben, c'est ça. En fait, on veut partager ça avec Mitsubishi.
Mais le Titan, ce serait le gros temps, c'est ça? Ben, une tonne, quand même.
C'est ça. Alors, il y a le mi-temps, ça, c'est celui entre les deux. Merci à Jean-Christophe, voilà. Non. Alors, voilà, bon, on a-tu épuisé? Oui, on est correct, on peut continuer.
Lui, il n'y arrivera jamais.
Non, c'est ça.
Combien de temps il douche?
Alors, en fait, ce qu'on va amener, c'est un pick-up, une tonne électrique,
ouais.
Qui serait construit au Mexique en collaboration avec Mitsubishi, qui aurait aussi une version Mitsubishi sur la route.
Ils font partie de la même alliance.
Ils font partie de la même alliance, Renault, Nissan, Mitsubishi. Là, on n'a pas de détails sur la grosseur de la pile, l'autonomie, tout ça, mais il y aurait dans les papiers un projet comme celui-là qui serait pour 2026. Donc, ce n'est pas 25, ça serait 26. On a déjà une usine au Mexique et on dit, bon, pour éviter évidemment les frais, les douanes, taxes qu'on a.
Le plan de libre-échange nord-américain.
Voilà, exactement. Donc, si on le fait construire au Mexique, on est correct. Donc, il y aurait un produit comme ça qui s'en viendrait sur la route. On parle également d'une berline à haillons, d'une berline tout court, puis 3 VUS. Donc, qui vont aussi être électrifiés. Parce que pour le moment, chez Nissan, il y a la Leaf et il y a la Ria.
La Ria.
C'est tout.
On pourrait réutiliser les noms connus, ça pourrait être une nouvelle
maximum. Oui, absolument. Ça pourrait être ça. Là, il y a évidemment aussi la technologie EcoPower là, dont on parle depuis déjà.
Oui, c'est vrai.
Moi, je suis allé à un lancement avant la pandémie en 2019 aux États-Unis. En fait, on était sur les terres dans le désert de l'Arizona où sont Richard Branson ou son complexe de spatial.
Virgin Space. Ouais.
On était là. C'est assez spécial
wow,
à l'époque.
Ben oui.
Puis on a essayé, on nous a montré ce qu'était le EcoPower qui commençait au Japon à l'époque.
Mm-hmm.
Et on est 5 ans plus tard et on attend toujours après.
Ouais.
C'est pour ça que je dis que le fameux scandale Carlos Ghosn, là, ça l'a mis du plomb
ça
dans l'aile de
cher.
Façon assez sévère.
Absolument.
Du côté de chez Nissan. Mais on devrait avoir ça bientôt. Puis tiens, parlant d'un VUS électrique, il y a Porsche aussi qui prépare un VUS électrique. En fait, un VUS électrique à 3 rangées.
Mais il y a le Macan qui s'en vient déjà.
Il y a le Macan qui va être à 2 rangées.
Voilà.
Il y a le Cayenne qui est à 2 rangées. Là, on parle d'un 3 rangées.
Ah, qui serait un troisième
plus gros
véhicule.
Qui sera un autre véhicule.
Wow.
Qu'on va amener. On parle d'un modèle qui arriverait comme année modèle 2026. Donc, qui arriverait probablement l'an prochain. Il y a déjà quelques photos espions qui circulent sur le modèle qui serait, en tout cas, à quoi ça ressemble. C'est pas très beau, honnêtement. Vous irez sur annuelauto.ca. J'ai fait une petite nouvelle avec ça. Vous pourrez aller la voir.
Mm-hmm.
Ça a l'air d'une espèce de gros Cayenne, mais sans le style.
Petit côté Touareg aussi. Je ne sais pas à quel point.
Ouais, peut-être un peu.
Mais
évidemment, chez Porsche, on n'est pas plus fou qu'un autre. On se dit, bon, si c'est pour attirer de la clientèle et amener du monde, on va en vendre. Parce que même si on a.
Ben, ils s'en cachent pas.
Crié haut et fort.
Ben oui.
On a crié haut et fort quand le Cayenne est sorti, mais c'est quand même ce que sauvait la compagnie.
Ben voilà.
Et le Macan s'est vendu aussi en grande quantité. Donc, c'est ça qui fonctionne. On va en amener un. Côté électrique, on a tout ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup il y a déjà le Taycan. Je vais en parler plus tard dans l'émission.
Mais tiens, on pourrait. Du groupe Volkswagen.
Voilà, exactement. Ben oui. Donc, on peut aller piger dans le coffre à outils là, de Volkswagen, aller ramasser des pièces. Donc, c'est relativement facile à mettre tout ça ensemble.
Mm-hmm.
Mais on prépare ça parce qu'on se dit, bon, la concurrence en a. Alors, plaçons-nous là. Mais il va falloir travailler sur le style parce que les photos que j'ai vues, franchement.
C'était pas fameux.
Parce que ça va être cher, là, on s'entend. Porsche, c'est toujours très cher. Tant qu'à payer très cher, on peut savoir quelque chose qui a l'air aussi très cher. Là.
Oui,
ça aille avec un petit peu. Alors voilà, ça termine nos petites informations de la semaine. On va aller à la pause et après, on vient avec notre invité de la semaine, André Fitzpatrick.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Vous le savez, je suis un amateur de voitures classiques. Ceux qui ont écouté l'émission Passion Auto à RDS le savent. On fait le tour de collectionneurs. Mm-hmm. Et c'est des voitures qui demandent, disons, une attention différente, une façon d'approcher ces véhicules-là qui n'est pas la même. Et je ne suis malheureusement pas le spécialiste pour parler de l'entretien, de la mécanique et de ces choses-là, de ces véhicules, mais l'émission... Je ne peux pas tout faire,
mm-hmm.
mais l'émission, c'est... a pris quelqu'un qui, lui, en fait sa vie, en fait sa spécialité. Son nom, c'est André Fitzbach. Il y a un atelier qui remet les véhicules d'époque à neuf.
Mm-hmm.
Et j'insiste sur d'époque à neuf parce qu'on est très traditionnel du côté de chez André. Une voiture qui a été construite d'une certaine manière et remise en état de la même manière. On ne modifie pas le véhicule. S'il y avait des freins hydrauliques, il va y avoir des freins hydrauliques. S'il y avait des freins à tambour, ce sera des freins à tambour. On garde les directions originales, la suspension originale. Puis il va être avec nous fréquemment, comme ça, à l'émission pour parler de différents sujets sur les voitures classiques. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a plusieurs collectionneurs au Québec, je m'en rends compte, parce que j'en rencontre beaucoup. Il y a plusieurs gens qui ont des voitures, même une voiture qui a quelques années. Alain, tu as une BMW,
ben,
toi, 91.
Ben oui, parce que dans le catalogue des pièces de BMW, ma voiture, qui est une 91, donc pas nécessairement si vieille que ça, tombe dans le catalogue des voitures anciennes pour
BMW. Généralement, on met la barre à 25 ans et plus. C'est sûr que si on parle des années 60, là, on tombe dans des modèles plus âgés qui avaient une différente technologie. Mais il est avec nous. Salut André, merci d'être là à l'émission. Merci de collaborer avec nous de cette façon comme tu vas le faire.
Ben, bonjour à tous, ça me fait plaisir de collaborer avec vous. Je suis très, très heureux de ça. Puis on va essayer ensemble de rendre ça soit plus simple ou plus accessible pour les gens qui se posent des questions.
Oui, puis je l'ai dit, t'es un grand spécialiste de la chose. T'as plusieurs décennies de métier derrière toi. Puis là, je trouvais que le mois d'avril, c'était un bon moment pour parler justement du déremisage, on pourrait le dire comme ça. Beaucoup de gens, évidemment, laissent leur voiture de collection ou leur voiture classique au garage serré l'hiver. Là, avril, c'est pas mal le bon moment là pour sortir ces véhicules-là, mais on fait pas ça n'importe comment, André, puis je pense que c'est un petit peu ça qu'on veut aborder aujourd'hui.
Oui, évidemment, il y a plusieurs façons de faire, mais ils sont pas toutes nécessairement bonnes ou excellentes. On va essayer ensemble de démystifier ça puis de rendre ça intéressant pour un déremisage sans douleur, disons.
Bon, parle-nous d'abord de ce qu'est la mise en route traditionnelle, parce qu'il y a différentes façons, mais il y a la traditionnelle. C'est quoi ça exactement?
Bon, la traditionnelle, c'est la plus simple, en fait. C'est de remettre la batterie en place, chargée, prête à l'emploi, et puis de tourner la clé ou peser sur le bouton du démarreur et de faire tourner le moteur jusqu'à temps qu'il se mette en route.
Okay.
L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on fait travailler le démarreur, la batterie et les pièces internes du moteur très, très longtemps, sans pression d'huile, sans essence, parce que le carburateur s'est vidé avec le temps de pomper, tout ça aussi. C'est une façon de faire qui est plus difficile pour le moteur. On sait tous, du moins les gens du domaine, savons tous que les véhicules qui sont démarrés souvent sont les moteurs qui durent le moins longtemps. Alors, si on a une chance de sauver la mise en route ou de l'user prématurément en faisant peut-être attention à certains détails, ben sur une longue période, ça va être vraiment gagnant.
OK. Alors, à ce moment-là, quelle approche que tu suggérerais aux gens?
Ben, l'approche traditionnelle, comme je disais tantôt, c'était la plus facile parce que ça implique pas de connaissances autres que qu'est-ce qu'on est habitué de faire.
Oui, c'est ça. Donc, ça change pas les habitudes. On tourne la clé ou on pousse le bouton, puis c'est tout.
C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'on implique, par exemple, au Villebrequin et au Biel, pendant un certain temps, en tournant avec le démarreur, on implique de tourner sans pression d'huile parce qu'il y a un bout de temps que le véhicule n'a pas tourné.
C'est vrai.
Alors, les galeries d'huile ont fini par se vider doucement, etc.
OK.
Alors, que je suggère...
Oui?
Oui, vas-y.
Non, tu suggères quoi? On t'écoute.
Ce que je suggère, c'est peut-être de prendre un moyen un peu plus costaud, mais plus intéressant, c'est d'enlever les bougies et puis de faire tourner le moteur sans les bougies. L'avantage de cette technique, c'est que ça permet de faire tourner le moteur avec ses pièces internes qui ne se battent pas contre la compression durant surtout la période où il n'y a pas de pression d'huile encore. Le fait d'enlever les bougies aussi permet au démarreur de tourner plus vite puisqu'il n'a pas de résistance due à la compression de chacun des cylindres, ce qui permet de monter la pression d'huile, elle aussi, beaucoup plus rapidement. L'avantage aussi de faire ça, c'est que l'essence qu'on veut faire avancer du réservoir jusqu'en avant, parce qu'avec le temps, ça s'est évaporé pour la plupart jusqu'à la pompe ou d'autres, dépendamment des modèles,
oui,
jusqu'au réservoir.
S'il a passé, mettons, 6 mois ou 5 mois là, à l'abri, tout ça s'est vidé, là.
Ouais, ça soit vidé par évaporation principalement. Bien, ça permet d'activer la pompe, qui est généralement mécanique, de l'activer plus vite, puisque le démarreur tourne plus vite, puisqu'il n'y a pas de résistance due à la compression. Ça veut donc dire qu'on remplit le carburateur, en même temps, on remplit les galeries d'huile, puis on minimise l'usure interne du moteur.
OK.
Et après, ben, on remet les bougies, puis le véhicule, on fait comme on faisait d'habitude, on donne un ou deux coups de pédale pour initier la carburation, on tourne la clé, puis généralement, ça part très, très bien par la suite.
Ah oui, ben c'est intéressant.
Je prends des notes, moi.
Oui, oui, donc c'est ça. C'est qu'en fait, le choc est moins grand pour tout ce qui est pièces mécaniques, pièces qui roulent, en fait, moteur et compagnie, en le faisant de cette façon-là.
Oui. Là, je suis très conscient en disant ça que tout le monde n'a pas la capacité de faire ce que je viens de dire. Alors, j'ai une recette pour ceux qui sont soit pas mécaniciens plus qu'il faut et qui n'ont surtout pas l'occasion de le faire puisque la voiture est entreposée dans un lieu où il s'est défendu de faire un peu de mécanique. Il y a ça, il faut penser à ces gens-là aussi.
C'est vrai.
Alors, ce que je suggère, c'est que pour, je dirais, 85 % des véhicules avec un carburateur, parce qu'on travaille sur des véhicules d'époque, elles ont tous un tuyau pour 85 % d'entre elles, comme je disais, un tuyau en plein centre de l'entrée d'air au carburateur. Il faut donc enlever le filtre à air pour avoir accès au haut du carburateur. Puis il y a un petit tuyau qui a environ un quart de pouce de diamètre, certains vont l'avoir déjà reconnu, 3,16 à peu près, qui est généralement coupé en biseau. Ce tuyau a une très grande importance dans le fonctionnement du carburateur, on en reparlera une autre fois, mais c'est surtout qu'il est collecté avec la cuve du carbu.
OK.
Ce que je suggère, dans un cas où vous êtes coincé, vous ne pouvez pas enlever les bougies, etc., je vous suggère de remplir votre carburateur par ce tuyau. Alors vous allez emporter avec vous une petite bouteille d'essence, vous allez remplir votre carburateur par là, vous vous demandez probablement combien mettre d'essence, mais je vous dirais l'équivalent d'à peu près un demi-verre, comme un verre d'eau qu'on a sur notre comptoir de cuisine.
Un 3-4-11, là.
À peu près.
Ouais.
Et puis là, vous mettez de l'essence là-dedans, puis même s'il en coule à côté, c'est pas tellement grave non plus. Ce qui va arriver, c'est que le moteur va partir instantanément, il va rester sur toi en marche. La plupart des gens vont mettre de l'essence dans le carburateur à côté du tuyau. Fait que le moteur se met en marche seulement avec l'essence qui a été dégoûtée à l'intérieur de la canalisation d'admission. Mais le carburateur est sec, lui.
Ah oui.
Si on remplit le carbu d'avance dans sa cuve, bien, le carburateur peut se permettre de travailler une, deux minutes facilement. Ça permet de charger le circuit d'alimentation. Ça donne le temps à la pompe de fonctionner, de remplir, et puis vous êtes capable de sortir le véhicule très facilement par la suite.
Donc, ça donne un résultat semblable au fait d'enlever les bougies, c'est-à-dire qu'on permet au système de se remettre en marche, de se recharger, de se recalibrer le temps que le carburateur, lui, brûle en fait l'essence qu'on a mis, là.
Ouais, c'est ça. C'est la moins pire des deux solutions rapides, on va dire.
OK.
La pire des deux, c'est de faire tourner le démarreur puis d'attendre que ça parte, là. Ça, c'est la pire des façons de la
mettre en route. C'est comme démarrer un moteur à froid l'hiver puis partir tout de suite avec alors que tout est encore, l'huile n'a pas monté, les conduits, là, on pénalise la mécanique, là.
Ouais. Puis c'est dommage parce que c'est coûteux à réparer, puis on inflige nous-mêmes des dommages, c'est dommage. Mais de cette façon, on va dire la façon hybride, en mettant de l'essence par le petit tuyau dont je parlais, vous allez faire une mise en route beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressante.
Donc, mise en route intéressant. Évidemment, il y a d'autres points sur lesquels on doit regarder. Les pneus, l'ajustement des freins, la vérification des roulements de roues. Parle-nous de ça un petit peu.
Bon, c'est sûr qu'on part toujours du principe qu'on n'amène pas le véhicule au garage pour faire des réparations. On fait juste des vérifications.
Exact.
Pour ceux qui ont accès à leur véhicule facilement au lieu d'entreposage, c'est-à-dire chez eux en général, bien, il est facile de soulever les roues une à chaque puis de faire les ajustements parce que la plupart des véhicules, jusqu'au milieu des années 60, il fallait ajuster manuellement les freins. Alors, on en reparlera de la méthode, là, mais il reste que si vous le soulevez votre véhicule, vous allez savoir si vos freins ils ont besoin ou pas d'être ajustés pour ceux qui sont habitués. Sinon, avec des modèles à freins automatiques ou à ajustement automatique, ben là, on n'a pas besoin de se soucier de ça. Qu'est-ce qui nous dit qu'on a besoin d'un ajustement de frein? C'est généralement la hauteur de la pédale. Si on a une pédale qui se rapproche du plancher, c'est généralement parce que les sabots ont plus de course à parcourir à l'intérieur du tambour.
Oui, si ça freine une fois que vous avez le pied littéralement au plancher, il y a un ajustement à faire, c'est clair, oui.
C'est ça. Puis quand je parlais des roulements de roue, parce que puisque vous allez soulever votre roue pour vérifier l'ajustement des freins, mais profitez-en pour vérifier si votre roue, vos roues en avant sont bien attachées après leur chape de fusée, que s'il y a du jeu venant du roulement de roue, ben l'occasion est belle de faire l'ajustement.
Absolument. Puis, il y a aussi les huiles qu'il faut vérifier, les huiles de transmission, entre autres, pour être sûr, évidemment, que tout baigne encore dans l'huile.
Oui, transmission, oui, bien sûr. Et puis, l'huile moteur, bien entendu. Mais je voulais aussi qu'on remarque que la plupart des gens qui ont un véhicule avec une transmission automatique, donc 1950 et plus pour la majorité, là, je sais qu'il y en a eu avant, mais c'est qu'il arrive parfois que lorsque le véhicule est arrêté 5 ou 6 mois, qu'il y a des résidus d'huile sur le plancher qu'ils n'ont jamais eu durant la saison précédente. Là, à ce niveau-là, je veux rassurer tout le monde, là, c'est que c'est généralement normal et acceptable d'avoir un résidu d'huile à transmission automatique.
Absolument, puis tu le vois, moi, pour avoir été chez plusieurs collectionneurs, la plupart, en fait, pour pas dire tout le monde, ils ont une espèce de, moi j'appelle ça une tôle à biscuits, là, mais une plaque en tôle sous le véhicule, parce que souvent, c'est des véhicules de collection qui sortent pas très souvent. Puis il y a toujours une espèce de petit rond d'huile, là, donc c'est tout à fait normal, là.
Oui, mais c'est normal pour la transmission automatique principalement parce que le convertisseur de coupe, lui, il est plus haut que le niveau d'huile à transmission. Et puis avec le temps, il se vide, puis il renvoie l'huile dans le carter de la transmission qui, lui, devient trop haut, puis l'huile se transvide par le trou de ventilation.
Ah, ben oui.
Alors ça, c'est une situation normale parce qu'il ne faut pas oublier une chose, que ce soit pour la grandeur de la cuve du carburateur ou du convertisseur de coupe d'une transmission automatique, les fabricants d'automobiles avaient fabriqué ces véhicules-là pour un usage journalier et non pas un usage mensuel ou bimensuel. Bon, c'est ça. Alors, les véhicules ne perdaient jamais d'huile à transmission par le vent ou la ventilation après 24 heures. Ça se voyait pas, là. Mais par contre, après 5 ou 6 mois, c'est tout à fait normal. Si vous repartez votre véhicule par la suite puis que ce résidu d'huile ou ce dégât d'huile revient de façon périodique puis de façon rapprochée, mais là, il y a un problème. Mais si ça ne revient plus, tout est normal, tout est acceptable comme ça, puis j'aimerais que les gens ne s'inquiètent pas à ce niveau-là.
Bon, donc, il y a quelques petites procédures à faire. J'aime bien la mise en route parce que, honnêtement, je ne connaissais pas ce procédé-là. Mm-hmm. Puis on va revenir, André, pour parler couramment, là. On va essayer de faire ça une fois par mois pour parler de véhicules classiques, d'entretien. Puis t'as mille et un sujets dont on peut parler. Je rappelle que t'as un atelier mécanique qui est à Sainte-Madeleine où tu répare, remet en état, fait l'entretien de véhicules classiques. Donc, Feedback Garage, les gens peuvent facilement trouver ça en allant sur Internet. Merci pour ta première présentation, André. Il y en aura d'autres, on se tient au courant. Puis, jusqu'à la prochaine fois, ben, on se reparle bientôt. Merci d'avoir été là.
Ben, ça fait plaisir. À une prochaine.
Merci. Alors, c'était André Feedback, maître mécanicien. Moi, je l'appelle comme ça parce que lui, il connaît ça. Puis, honnêtement, il donne des trucs intéressants. Donc, si vous voulez plus de détails, André a aussi beaucoup d'informations sur son site web que vous pouvez aller consulter. Et on va le retrouver aussi dans des chroniques sur annuelauto.ca bientôt. Il va devenir un collaborateur de l'équipe de l'annuel. On ajoute des cordes à notre arc, disons-le comme ça. Alors nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers de voitures modernes cette fois.
Oui, ancienne, c'est certain. Oui.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Et c'est le moment de notre essai routier. Évidemment, Nissan semble être... ils vont être contents de l'émission aujourd'hui, les autres. Mais c'était pas prévu, soyez
c'est bien que tu le dises, parce que c'est vrai.
Il y a des journées comme ça où ça arrive.
Je pense qu'on peut dire que Nissan avait un petit peu besoin d'amour. Évidemment, il faut que ça vienne de Nissan aussi, n'est-ce pas? C'est toujours mutuel, ces relations, mais ils avaient besoin. Et ça tombe bien, parce que dans mon cas, en tout cas, cette semaine, j'ai été agréablement surpris. Je vous tiendrai pas dans la ligne pour la semaine prochaine parce que j'ai le Armada en deuxième essai de Nissan. Et ça, c'est l'espèce de, comment je dirais ça, le minibus slash char d'assaut de Nissan.
Le gros VUS. Là,
je ne serais pas tendre. Grandeur. Il n'y a pas besoin de l'aide. Mais ça démontre aussi comment une marque automobile peut être à la fois sur la coche, hein, comme on dit au Québec, et complètement dans le champ aussi.
Ah, on couvre large. Tu sais, même Toyota qui s'est vanté longtemps d'être le maître des hybrides avait quand même un Sequoia, avait quand même un Tundra qui sont des véhicules très nord-américains.
Ouais, exact. Dans ce cas-ci, c'est l'ultime SR que j'ai essayé. J'ai écrit un petit essai en même temps parce qu'on se prépare pour le livre, n'est-ce pas? Et j'ai titré ça « Elle vaut le coup d'œil », au minimum.
Ouais.
Parce que je trouve que c'est une alternative intéressante à l'achat d'un VUS pour des gens qui ont seulement le U de VUS en tête, la partie utilitaire. c'est pas évidemment une voiture sportive, mais ça reste aussi une voiture à vocation vaguement sportive, là, d'où le SR, l'espèce de badge rouge sur la grille, sur la calandre à l'avant. Ce que je veux dire de l'Altima SR, c'est que c'est une voiture berline intermédiaire qui a l'avantage d'avoir quatre roues motrices.
Ça, c'est intéressant. Et qui a quelques années déjà. Là.
Dans sa version, il y a la version S, il y a la SR. La SR a comme d'autres déclinaisons, mais grosso modo, c'est une voiture qui coûte 39 000 $, ce qui n'est pas encore 40 000 $, ce qui est dans le contexte de 2024 une bonne affaire. ce que j'arrive toujours pas à figurer parce que je suis encore dans ma tête à des voitures à 25 000, mais là, on parle d'une berline intermédiaire à un prix raisonnable qui offre le gros morceau, c'est la conduite comparable à celle d'une VUS. Pour arriver à mettre en marché là, cette berline-là à un prix raisonnable, qui est, cela dit aussi, en passant, pas trop gourmande et relativement plaisante à conduire. Nissan a regroupé plusieurs caractéristiques qui n'ont pas toutes une excellente réputation. J'écris ça, puis je pense à toi, Benoît, parce que je pense à la boîte de transmission CVT de Nissan qu'on connaît depuis 15 ans et contre laquelle on peste depuis plusieurs années.
La boîte Jetco, oui.
Ben, je vais te corriger.
La bonne nouvelle,
parce que t'as raison, mais en même temps, c'est aussi une... Elle s'appelle la X-Tronic CVT, son nom officiel chez Nissan, mais t'as raison.
Le fournisseur, c'est Jetco, mais la bonne nouvelle, c'est que ce contrat-là est terminé. Alors, probablement que s'il y a une prochaine Altima, une prochaine génération d'Altima, il y aura une boîte, une boîte automatique à 9 rapports dedans, comme on a fait avec les autres modèles.
Elle a quand même subi plusieurs transformations au fil, je dirais, de la dernière décennie et demie, parce que ça fait quand même depuis, je veux dire, 2008, je pense qu'on a des
CVT. Très longtemps.
Exactement, chez Nissan. Et elle se comporte quand même plutôt bien, en tout cas beaucoup mieux qu'avant ces jours-ci. À bord de l'Altima, là, elle est quand même assez bien rodée. Elle est réglée pour maximiser évidemment le couple disponible la plupart du temps. Oui. Mais elle varie aussi les rapports, presque comme une boîte automatique à rapport fixe. Elle vient livrer à bord de l'Altima SR avec des leviers au volant qui permettent justement de passer des rapports manuellement pour ceux qui tiennent vraiment à le faire. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point on fait ça. C'est quoi les statistiques d'utilisation des leviers de même?
Écoute,
mais ils sont là.
La seule chose, le seul avantage que je vois de ça, c'est qu'au lieu d'endurer des lamentations interminables quand vous montez en rapport ou vous dépassez, par exemple, sur l'autoroute, ben, en utilisant ça, c'est une simulation de changement de rapport. Ça vous empêche, ça empêche le tympan de saigner un peu. c'est moins difficile.
Ouais. Bref, si vous avez le tympan solide, c'est pas plus grave. La boîte est jumelée à un 4 cylindres de 2,5 litres, particulièrement bien ficelé. En tout cas, qui est reconnu, hein, on le sait, là, chez Nissan. Ils ont ça.
Ah oui, qui a fait ses preuves.
Depuis 40 ans, je pense
que
ça se trouve.
Absolument.
Je pense qu'on pourra en parler dans le département des voitures anciennes prochainement, bientôt, ce cylindre-là, presque. Mais bref, tout ça ensemble, ça parvient à livrer une bonne puissance aux roues motrices et ça permet surtout de conserver une consommation de carburant que j'ai trouvé très raisonnable d'environ 7 litres au 100 km.
Ouais.
J'ai été surpris parce que, de mémoire, Nissan affiche 8 litres au 100 km en moyenne ville et autoroute. Et ça arrive à peu près jamais, mais là, j'ai réussi à avoir une moyenne sous la cote du constructeur.
Puis c'est quand même un véhicule assez gros. Donc
ben,
c'est
ça, c'est une grosse berline, exactement. Oui, et j'ai pas été particulièrement tendre. J'ai une conduite style banlieue, là, avec beaucoup d'autoroutes et de la ville aussi. Et c'est quand même la consommation d'une hybride sans la technologie hybride, donc c'est quand même pas rien. Évidemment, comme il n'y a pas de technologie hybride, disons ça comme ça, le véhicule n'est pas très pesant, ce qui est une autre façon utilisée par Nissan là, pour rendre ses véhicules moins gourmands, plus performants. Et ça aussi, ça date de 2008 dans ce coin-là, quand on disait qu'on a un plan pour améliorer la consommation. Oui. Et cette, je vais pas dire ce poids-plume, mais cette absence de surpoids, disons ça comme ça, se sent quand même un peu au volant. On a 182 chevaux et 178 livres-pieds de puissance et de couple sous la pédale, pour utiliser une expression colorée. Et c'est amplement suffisant. Évidemment, il y a toujours des gens qui vont vouloir plus. Et pour ça, on aurait pu opter pour ce qui se vend aux États-Unis. Je ne l'ai pas trouvé au Canada, mais il y a une Altima SR moteur turbo, le fameux moteur à compression variable.
Non, tu ne veux pas acheter ça.
Bon, ben merci.
C'est le moteur à compression variable.
Avec une CVT qui n'est jamais à la bonne place au bon moment.
Non, c'est parce que, écoute, moi, j'ai jamais compris le principe de mettre un moteur à compression variable avec une transmission variable.
C'est deux technologies qui... sur papier devrait aller ensemble, mais en pratique,
ça se parle pas, ça.
Non,
ça se
exactement.
Parle pas. T'as jamais l'accélération dans le bon régime de la transmission.
Mm-hmm.
La transmission arrive trop tôt, trop tard. Le moteur. Non. Le 2,5 litres.
Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas vendu chez nous encore.
Non. Puis j'espère qu'il ne se vendra pas.
Ouais, exactement. À bord, ben, évidemment, l'Altima a tous les atouts d'une voiture Nissan, n'est-ce pas? On a droit à un cuir molleté.
Oui.
On dit pas ça souvent, j'étais curieux de traduire ça. C'est un cuir molleté, donc cousu de fil rouge, qui confère dans le fond une allure sportive assez agréable à l'œil, n'est-ce pas? Les sièges sont chauffés, climatisés, ça c'est un gros plus toujours. Il y a CarPlay et Android Auto sans fil là, sur l'écran du système multimédia, qui n'est pas gigantesque, qui fait 12,3 pouces. C'est mieux que c'était. Nissan a fait des progrès là-dessus parce que le système multimédia depuis
on
le
était longtemps
au
8 pouces, là. C'était correct pour une période, mais quand tout le monde est rendu à 12 pouces, à un moment donné, faut que tu dises, bon, faudrait peut-être arriver dans le groupe. Là.
Ça doit être encore une question d'équipementier qui fournit la pièce, mais on est rendu là. Je veux dire ceci, il y a des boutons physiques, là. C'est pas du tactile, là, le tableau de bord dans la console, et c'est à l'avantage du véhicule. Même si ça fait pas très high-tech de pouvoir le faire sans avoir à toucher à des surfaces tactiles, ajuster la climatisation, à quitter la route.
Le bon
des
vieux
yeux.
Bouton a encore son utilité, à mon avis.
Puis il y a moyen de faire ça chic et de bon goût, Nissan le fait et ça marche. Je veux dire, ceci, les sièges sont quand même assez fermes et je ne les ai pas trouvés particulièrement confortables. Et à l'arrière, bien évidemment, c'est une banquette. On peut asseoir 3 personnes, mais l'idéal, c'est de se limiter à 2.
Oui, la troisième, t'as un peu tard.
C'est chien pour le troisième enfant, mais il va peut-être falloir faire des compromis. Évidemment, la banquette, comme les sièges en avant, c'est spacieux, mais c'est pas exactement confortable. J'étais un peu déçu du confort des places assises.
Et le prix?
Ben 39 000 $ moi, okay. ça fait la job. Je veux dire ceci, parce que je parlais d'un VUS en entrée de segment, le coffre est peut-être pas le plus gros, mais il y a un bel accès pour une berline de ce format-là, donc il y a quand même une certaine utilité. On peut rabattre la banquette, évidemment, et je veux dire ceci, très peu de gens ont vraiment besoin du coffre total de VUS sur une base quotidienne, donc si vous cherchez un VUS pour l'aspect, logibilité,
pour
utilité...
Pour l'aspect 4 roues motrices, tout ça,
et les 4 roues motrices,
il y a tout ça.
Ben, l'Ultimate est une belle option à considérer.
C'est intéressant à conduire qu'un VUS.
Coûte moins cher, consomme moins d'essence aussi. Donc, considérez, mettez ça sur votre liste de magasinage si vous êtes dans ce crédit.
Bon, parfait. Tu me laisses 4 minutes pour parler de la Taycan. En fait, de la première de mes deux parties de la Taycan.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a la Taycan 4S Turbo, Turbo S, Turbo GT et GT Vysac, édition Vysac, là, qui est toujours l'édition la plus équipée. Écoutez, on a été faire, et je vais garder mes commentaires sur la piste pour la semaine prochaine parce que c'était la Vysac et je dois retenir mes propos pour le moment. Mais on a pris la Turbo S pour la route. En fait, ce qu'on a fait chez Porsche, on a pris la base de ce qu'on connaissait de la Taycan qui est arrivée en 2020 et on a resserré tous les boulons. On a ajouté des caractéristiques. On a, par exemple, une suspension adaptative, pneumatique, de série, peu importe le modèle que vous allez acheter. Mais par-dessus ça, on a en option ce qu'on appelle le Porsche Active Suspension.
PAS.
Qui est un système qui, la façon la plus facile, je peux traduire ça, qui lit la route. Littéralement.
C'est magique, mais c'est une façon plus technique de le dire.
Écoute, s'il y avait un bouton magie, ça serait pas mal la même chose.
Ouais.
Ça prévoit les survirages, les sous-virages. Ça amortit ou aplanit la route. Ça va même corriger si vous arrivez trop vite dans une sortie ou une entrée de courbe. Ça fait de vous un meilleur pilote. Et ça, quelque part, c'est un petit peu épeurant. On a pris des routes, on est en Espagne, où la limite est à 130 km/h. Donc, c'est sensiblement la même chose qu'ici.
Mm-hmm.
Mais la facilité avec laquelle ce véhicule-là se conduit, c'est ahurissant. Là. C'est même... trop facile parce que c'est 2295 kilos, le modèle Turbo S qu'on a entre les mains. Et là, attendez, il y a un bouton qui s'appelle Press to Pass, qui est en fait l'équivalent qu'on a en Formule 1, pas en Formule 1, en Formule E électrique.
La lettre. Mm-hmm.
Quand on fait un dépassement, on appuie et pour 10 secondes, on a un surplus de puissance. Et attention, c'est pas une décoration, ça marche pour le vrai.
Mais c'est vraiment son nom, Press to Pass.
Press to Pass.
Wow!
Push to Pass.
Push to Pass.
Puis quand on met ça sur le modèle Turbo S qu'on avait, on ajoute 188 chevaux. Comme ça.
OK.
On passe à 938 chevaux et à 818 livres-pieds de couple.
C'est franchement mieux.
J'ai fait un 0-100. On a pris le launch control, on est arrêté en bordure de route. Mm-hmm. On s'est remis sur l'autoroute. On a appuyé, c'est facile. Pied gauche, frein au fond. Pied droit, accélérateur
au fond. Ah oui,
puis
le système, c'est ça qui t'aide à faire l'accélération.
On
décollage.
Lâche le frein et en 2,4 secondes, on est à 100 km/h. Écoute, les orbites des yeux vous reculent un peu.
C'est-à-dire qu'il doit y avoir des choses qui doivent rester derrière.
Puis on fait un 0-200 en 6,6 secondes. Ça tient pas debout, mais confortable, bien ficelé. Mais il y a un prix à payer pour ça. Écoutez, notre modèle, je vous le dis tout de suite, qui se vendait de base 196 800 $ avant taxe et sans option, il y avait 54 400 $ d'option.
C'est une Porsche.
C'est une Porsche et il y avait 27 000 $ de frais de taxes de luxe parce qu'on est au Québec. Avec les taxes, vous êtes à 327 680 $ quand vous avez fini.
Wow!
Alors, c'est une voiture d'exception.
Démesurée dans tous les
sens.
Il y a
une batterie de 105 kWh. On annonce 636 km d'autonomie, mais ça, c'est en WLTP. Il faudra voir en EPA. 400, mais ça va donner 500, 550. Mais c'est hallucinant. Si vous avez 325 000 $ dans vos poches, vous allez être mort de rire. C'est tout le temps qu'on avait. C'était mon 4 minutes. Merci à Jean-Christophe Ouellet, André Fitzbach. Merci Alain. Nous, on se reparle la semaine prochaine et on fait l'édition Vaisac. Vous allez voir, là, on tombe dans le superlatif. Salut tout le monde.
C'est